au classement sur le Canadien, mais les Flyers ont joué un match de moins. Et au football de la NFL, ce soir, le match du jeudi oppose les Chargers de Los Angeles aux Raiders à Oakland. Et dans une douzaine, quinzaine de minutes, on va parler à Martin Bédard des Alouettes de Montréal.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.
Vous venez d'entendre un discours de John F. Kennedy qu'il a prononcé à Berlin pour sa solidarité envers les Berlinois, parce que vous comprenez que c'était à une époque où ils étaient encerclés ou enclavés, je devrais dire, par à l'époque pas la Grande Noirceur. La Grande Noirceur, c'était chez nous.
La guerre froide. La guerre ultra-froide.
Et donc, on parle de ça parce que ça va faire 30 ans dans quelques heures que le mur de Berlin est tombé, s'est écroulé. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Incroyable. Hein?
Ça a été un grand moment. Probablement que pour notre génération, ça a été un avec, par exemple, la journée où les tours à New York sont tombées. C'est probablement un des grands événements qui va nous marquer, puis que plusieurs d'entre nous, on se souvient où on était quand c'est arrivé. Parce que ça a changé le reste de l'histoire à bien des égards. Et pour en discuter, on reçoit l'historien que vous connaissez bien et que vous aimez bien, Denis Anger. Salut, Denis.
Salut, Éric.
Donc, Denis, mets-nous dans le contexte un peu, parce qu'on était là quand il s'est écroulé, plusieurs d'entre nous, le mur, mais on n'était pas là quand il s'est construit, parce qu'on n'était pas encore...
À moins d'être un peu plus vieux, hein, on a construit le mur de Berlin en 1961.
J'étais là. J'étais pas sur place.
On n'était pas là pour mettre des cailloux, puis mettre des graviers, puis mettre des blocs de béton. Quelques mois avant que le président Kennedy aille à Berlin faire ce discours-là. D'ailleurs, il avait bien fait rire les Berlinois parce qu'il dit « Ich bin ein Berliner ». En voulant dire que je suis un Berlinois. Or, à Berlin, un habitant de Berlin, c'est pas un Berliner. Un Berliner, c'est une pâtisserie. Donc,
c'est un beigne un peu.
Je suis une brioche, d'une certaine manière, mais il avait quand même été ovationné beaucoup parce que les Berlinois avaient vu du jour au lendemain, en juillet 1961, s'ériger un mur. Le mur qui marquait un peu, consacrait le rideau de fer, on s'en souvient, Eric, après la Deuxième Guerre mondiale. Les puissances alliées, les États-Unis, la Grande-Bretagne, un peu le Canada et la France d'un côté, et l'Union soviétique de l'autre côté, c'était partager l'Europe sur une ligne qui part de la mer Baltique et y va jusqu'à la mer Adriatique. Et Winston Churchill avait dit, il y a un rideau de fer qui a été placé sur l'Europe. Donc, on a coupé ça en deux zones d'influence, occidentaux à l'ouest et soviétiques à l'est. 1961, qu'est-ce qui se passe? Bien, évidemment, la prospérité, elle est d'abord en Occident, donc l'Allemagne de l'Ouest, qui est créée en 1948-49. Pardonnez-moi. Va prospérer de manière exceptionnelle. C'est vraiment la reconstruction, les 30 années glorieuses de l'Allemagne fédérale. Les gens qui sont à l'Est, dans l'Allemagne démocratique allemande, qui est un...
Qui n'avait démocratique que le nom, je vous le rappelle.
Qui était un régime communiste stalinien.
Absolument. Il utilisait le mot démocratique, mais c'était un peu en dérision parce qu'il n'y avait rien de démocratique.
Il n'y avait pas vraiment. Il y avait un parti unique et si vous n'aviez pas le parti unique avec vous, vous étiez nulle part.
C'est ça.
Mais dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands de l'Est, ils sont 17 millions, il y a 55 millions d'Allemands à l'Ouest. Ben, ils sont attirés par la richesse de l'Occident.
La prospérité de l'autre bord du mur.
Exact. Et ils vont voter avec leurs pieds. Donc, ils vont quitter l'Est avant la construction du mur en nombre considérable. Évidemment, l'Allemagne de l'Est est en train de se vider de sa richesse première, ses habitants. Et on est sur de les embarrer, littéralement. On va construire un mur.
On va les emprisonner, en fait. C'est carrément une prison.
Tout à fait, c'est une prison.
Puis le mur, c'était un mur physique. Il y avait aussi des broches au-dessus.
Il y avait des barbelés partout. Il y avait une zone qu'on appelait « killing zone », une zone de mort. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près, je vous dirais, près 75 mètres, hein, 300 pieds en avant du mur où vous n'aviez pas le droit de vous présenter sous peine de mort, d'une certaine manière.
Il y avait des terrains minés aussi?
Qui sont morts. Pardon?
Il y avait-tu des terrains minés aussi?
Il y avait des terrains minés, il y avait des barrières anti-chars ou anti-véhicules pour pas que quelqu'un
puisse foncer dedans.
Pardon, il y a des dizaines de cas d'Allemands de l'Est qui ont été abattus. 75 000 Allemands de l'Est ont été appréhendés pendant la durée du mur. Ça a duré quand même 1961 à 89.
Ça fait que pendant ce temps-là, il y a 75 000 personnes qui ont tenté de traverser et qui se sont fait intercepter par les militaires soviétiques.
Allemands de l'Est, qu'on appelait les VOPO, V-O-P-O, la Volkspolizei, la police du peuple.
Encore une fois, une autre menterie.
La démocratie, la police du peuple et tout ce que vous voulez. Et finalement, il y a eu cette construction-là.
On l'a appelé, Denis, le mur de la honte.
C'était le mur de la honte.
On avait honte de quoi, puis pourquoi on l'appelait comme ça?
On avait honte de penser qu'il y avait toute une société qui était privée de la possibilité de voyager, de découvrir, d'échanger. C'était des Allemands comme les autres. Ils avaient les mêmes racines, ils avaient les mêmes origines. Il y a des familles qui avaient été coupées en deux parce que l'un demeurait d'un côté de la rue et l'autre de l'autre côté. Il y avait des maisons qui donnaient sur la frontière où on a carrément muré les fenêtres, on a muré les portes. La grand-mère ne pouvait voir sa petite-fille et le fils, son père, d'une certaine manière. Donc, ça a été vraiment le symbole de la séparation entre l'univers soviétique et l'univers démocratie libérale occidentale.
Donc, ils ont construit le mur, puis... Quand ils ont construit le mur, évidemment, c'était pas annoncé. Ils n'ont pas fait campagne publicitaire pour dire qu'ils mettaient un mur.
Du jour au lendemain.
Ça veut dire qu'il y a des gens, des familles qui ne savaient pas. Ça veut dire que moi, mon chum, mettons, ils mettent un mur Montréal-Québec, du jour au lendemain, on est séparés.
Et l'autre bord du mur,
plus voir.
Vous êtes de ce côté-ci, vous ne pouvez pas vous voir. Et pour vous retrouver, vous risquez d'être abattu ou bien arrêté. Et la peine de prison, c'était 2 ans ferme pour quelqu'un qui avait tenté de vouloir approcher trop de la zone de contrôle du mur de Berlin. C'était épouvantable.
Ça a été quoi l'événement déclencheur? Parce que ça, si je ne me trompe pas, c'était sous Gorbatchev. Hein?
Exactement. Ça a été Gorbatchev un peu. Ça a été la fin du régime de Brejnev. Brejnev, ça a été, un dictateur soviétique pendant des années, autoritaire, conservateur, rétrograde. Il meurt en 1984, il est remplacé par un type qui s'appelle Yuri Andropov, qui est l'ancien patron du KGB, mais Andropov va durer à peine une année, il va mourir. Et là, l'arrivée de Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev, à l'époque, on le trouve jeune, mais on le trouve dynamique. Il a 54 ans, il est un pur fruit de l'appareil soviétique, mais il a une ouverture et il a une espèce de volonté de moderniser l'Union soviétique. Il a vu que l'Union soviétique, ça marche plus, en économie, ça va pas bien. Ils ont été embarqués par le président Ronald Reagan dans ce qu'on a appelé la guerre des étoiles. Donc, il n'y avait plus les moyens de suivre la puissance américaine.
Au niveau militaire.
Exactement. L'État est en quasi-faillite et il faut aller faire quelque chose. Lui, il arrive avec une formule en deux mots. Le premier mot, il s'appelle glasnost, ça veut dire transparence. Donc, dorénavant, nous, les Soviétiques, on va être clairs et transparents. Ce qui est tout nouveau. À l'époque, on sait qu'il y avait une propagande épouvantable. Les dissidents étaient envoyés au goulag. Solzhenitsyn, on le connaît. Sakharov, on le connaît. D'autres, il y avait un autre mot qui était perestroïka, qui veut dire réorganisation. Donc, ils vont réorganiser. 1985, il arrive au pouvoir et déjà, on sent que l'appareil soviétique commence à se fissurer. Et c'est dans ce contexte-là que 2 ans plus tard, évidemment, en 89, les fissures deviennent des grosses crevasses et que le mur de Berlin commence à craquer de partout à tel point que le 9 novembre 1989, le dirigeant communiste qui s'appelait Egon Kent a décidé de dire, OK, on va le laisser passer. Et dès ce moment-là, on a permis aux Allemands de l'Est de quitter. Et ça a été la fin. C'était un moment absolument extraordinaire. Regardez les images. Il y a des milliers de personnes qui s'en vont sur le long du mur avec des masses, avec des marteaux, avec des pinces Monseigneur, puis des barres de fer pour abattre le mur. C'est un moment exceptionnel. Un enthousiasme incroyable. Il y a des gens qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Il y avait
27 ans, des familles qui avaient été séparées, qui se sont retrouvées spontanément.
Et qui avaient
on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui.
On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui.
Puis ça a été la fusion, parce que, évidemment, les deux Allemagnes ont été réunifiées.
Exactement.
Ça a été la fusion la plus rapide, puis la plus réussie, je pense, parce que ça s'est fait vite, dans le sens où...
Une année après, c'était fini.
En l'espace d'un temps d'un éclair... tout était fusionné.
C'est-à-dire que c'était fini l'Allemagne de l'Est, c'était fini les nageuses de l'Allemagne de l'Est qui gagnaient toutes les médailles d'or, puis les athlètes de l'Allemagne de l'Est.
Les
qui...
Cornelia Ender.
Oui, avec des, comment dire, des gabarits de... Ouais.
Des voix de ténor aussi.
Des voix de ténor, puis une barbe un peu
des haltérophiles qui gagnaient en natation.
Exactement, ouais. Mais ça a été la fin en quelques semaines après. Non? On sentait que les Allemands étaient tellement heureux de se réunir.
C'était rendu là.
Il faut dire que l'Allemagne de l'Est a payé le prix, parce que le chancelier s'appelait Helmut Kohl à l'époque. Il a dit, je tends la main à mes frères d'Allemagne de l'Est, et l'Allemagne de l'Ouest va assumer la réunification allemande. On parle d'une facture entre 50 et 60 milliards de dollars. 30 ans après, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, il faut dire que c'était une société à deux vitesses. Hein. L'Ouest était développé, industriel, libéralisé, démocratique. L'Est, plus rétrograde, ils avaient été vidés, eux autres. Les Soviétiques, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés dans leur zone d'occupation, qui était l'ancienne Prusse. Et on dit, on prend tout ce que là, parce que ces maudits Allemands-là, ils nous ont envahis, ils nous ont massacrés, ils nous ont méprisés, etc. Donc, ils ont tout vidé. Ils sont arrivés avec les trains, ils ont pris les usines, ils ont tout emmené ça en Union soviétique, ce qui fait que c'est devenu un pays, l'Allemagne de l'Est, agricole, petit commerce. Moi, je me souviens pas d'avoir vu un produit dans un commerce à Québec marqué fait en DDR, la République démocratique allemande. On voyait ici, par exemple, il y avait des velours qui venaient de Pologne, il y avait des cuirs qui venaient de Yougoslavie. On était tous surpris. Il y avait même à l'époque des baguettes qui venaient de Chine. Hein? Les plus anciens s'en souviendront. Un produit made in China, il y a 30 ans, c'était des baguettes, c'était des petites poupées, c'était des porcelaines cheap. Hein, ça a bien changé. On n'est plus là du tout. Donc, les Allemands de l'Est ont rattrapé le rythme du développement européen. Pas complètement. Encore aujourd'hui, en Allemagne de l'Est, on est encore un peu frustré de penser que les gens de l'Ouest nous considèrent comme des habitants un peu rétrogrades, des agricoles, des cultivateurs, etc., etc. Vous savez qu'il y a pas beaucoup d'Allemands de l'Est qui ont fait leur marque en Allemagne. Une grosse, grosse exception, Madame Merkel, la chancelière actuelle, qui, elle, est une femme qui vient de Berlin-Est, qui est une femme qui a une formation de chimiste quand même. Mais les Allemands de l'Est se considèrent encore comme des citoyens de deuxième niveau, malgré que le rattrapage, il est progressif. Donc, il y a 30 ans, le deuxième niveau était vraiment loin derrière. Aujourd'hui, ben, ils ont largement rétréci.
Je veux que tu me dises aussi, parce que, oui, on parle de l'Allemagne, mais c'est pas le mur qui est tombé. C'est aussi deux solitudes politiques qui se sont réunies. C'est les tensions militaires qui se sont apaisées. Ce mur-là, oui, c'est physiquement en Allemagne, mais c'est la planète au complet.
Exactement.
Qui a été ébranlée.
Il incarnait la guerre froide. Hein, la guerre froide entre deux superpuissances issues de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis dans le coin gauche, l'Union soviétique dans le coin droit.
Ou vice-versa.
Ouais, c'est bien. Vous savez, les Soviétiques étaient plutôt conservateurs. Hein? Je pense qu'ils étaient parfois plus de droite que bien les gens de gauche. Mais enfin, Staline, qui est là en 45, décide de dire, nous, on ne me fera plus à nouveau le coup de m'envahir. Donc, il s'est construit un empire. Hein? Donc, il a annexé quoi? Les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Il a annexé, à toute fin utile, la Pologne avec un régime communiste. Évidemment, l'Allemagne de l'Est, on en a parlé abondamment. La Hongrie, bon, l'Ukraine, ça n'existait même pas. C'était soumis à l'Union soviétique depuis 1921. Donc, il y a tout une espèce de glacis qui est là, de gens qui sont dans une alliance qui s'appelle le Pacte de Varsovie. C'est clair qu'avec la chute du mur de Berlin, les pays du Pacte de Varsovie ont compris que eux aussi, ils avaient la chance de renouer avec un certain libéralisme, une certaine ouverture, de recontacter les cousins qui étaient au Canada, en Amérique, les Polonais, par exemple. On l'a vu avec Solidarnosc, Lech Walesa, qui s'est rebellé contre le pouvoir communiste polonais. Il y a des pays qui sont redevenus des pays. J'évoquais tantôt la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. La Russie blanche, la Biélorussie, ça n'existait pas. L'Ukraine, ça n'existait pas.
Les Tchétchènes,
les Arméniens, les Georgiens, les Tadjiks, les Azéris, il y en a partout, les Kazakhs. Hein, l'éclatement de l'Union soviétique, deux années plus tard, en 1991, c'est tributaire de la chute du mur de Berlin. Donc, c'est un élément qui... fondamental, l'effet domino total.
Toute la région est tombée.
Une après l'autre.
Et là, il y a des printemps de Prague. Je veux juste qu'on remonte avant, parce que c'est Celui-là a fonctionné, mais il y avait eu des tentatives avortées précédemment.
Il y en avait une à Berlin, d'ailleurs.
Il y en a eu une à Berlin.
En 1953, les travailleurs de Berlin veulent se rebeller contre l'autorité soviétique. Ils sont massacrés à coups de char d'assaut. 1956, à Budapest, en Hongrie, les Hongrois font la même chose. Ils veulent se rebeller. Ils veulent redevenir un peuple, une nation. Ils sont écrasés à coups de char d'assaut, de T-34, T-55 soviétiques. 1968, vous l'évoquez, Éric, le printemps de Prague, un type qui s'appelle Alexandre Dubček, qui dit « Nous, on doit faire un socialisme à visage humain. » Il va animer un grand mouvement et les Tchèques se disent « Ben, ça serait intéressant qu'on ait le droit à des élections libres. » Ben, évidemment, on l'a vu à l'automne de 1968, les chars soviétiques et les chars des alliés, des amis du parc de Varsovie sont entrés dans Prague et ont écrasé le mouvement de solidarité des Tchécoslovaques. Mais après...
Pourquoi tous ceux-là ont avorté, Denis? Puis celui de 89, c'est ça ma question. Comment ça se fait qu'en 89, la rébellion, elle a eu un succès, puis toutes les autres, ça a été des échecs?
Parce que en 1989, l'Union soviétique est l'ombre de ce qu'elle était en 1953, 1956.
Le déclin était trop fort.
Tout à fait. On l'a évoqué tantôt, la course, la guerre des étoiles, le développement économique qui ne vient pas.
Ils étaient à bout de souffle, dans le fond. Là.
Ils étaient cassés comme des clous. Hein. Il y avait plus nulle part. Ils étaient embarqués dans une course aux armements qui leur coûtait la peau des fesses et qui n'étaient pas capables d'assumer face aux États-Unis d'Amérique. Il y avait partout dans l'Union soviétique la résurgence de sentiments nationaux. Les Ukrainiens, ils n'aiment pas beaucoup les Russes depuis bien des siècles. Hein. Les Bélorusses, c'est la même chose. Les Lettons, les Baltes...
On n'a pas conscience de combien il y a des rivalités entre ces peuples. Je veux que tu me parles... On va revenir au nom du mur, parce que nous, on l'a appelé tantôt, on l'a dit, on appelait le mur de la honte, mais de l'autre côté, c'était pas le nom que les communistes y avaient donné.
Je sais pas, y avait donné quoi?
Les remparts antifascistes.
Ah ben, regardez. Ah, oui.
C'est normal, pour eux, c'était le nom qu'ils avaient, c'était le brand là, pour la propagande. Ils avaient utilisé ce mot-là parce que nous, on était des fascistes et ils voulaient se protéger du fascisme.
Exactement, donc, comme ils s'étaient protégés des troupes d'Adolf Hitler, peut-être à l'époque.
Mais non, mais moi, je vois... Tant que, ben non, le lien, il est clair. C'est-à-dire que, et les États-Unis, l'Occident et la Russie se sont battus en Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne, qui étaient effectivement des vrais fascistes.
Exactement.
Puis, sauf que leur réponse était très différente. Ouais. Mais dans les deux cas, ils luttaient contre le fascisme. C'était intéressant de voir ça.
Mais mentez, hein, quand vous voulez, rendre quelqu'un redoutable, vous lui donnez une épithète épouvantable.
C'est sûr.
À l'Allemagne de l'Ouest, c'est sûr qu'il y avait encore en Allemagne de l'Ouest des gens qui avaient trempé dans le nazisme hein, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le rideau de fer a été dressé et qu'il y a eu le conflit qu'on a appelé la guerre froide. Ben, les Américains ont notamment récupéré tous les services de renseignement qui étaient ceux de l'Allemagne nazie parce que eux, ils avaient quand même des entrées d'espionnage en Union soviétique et parmi leurs alliés. Mais c'était pas un pays fasciste.
Mais non, ça avait rien à voir avec ce fascisme. Donc, c'était une démocratie libérale comme on la connaît encore aujourd'hui.
Tout à fait.
Moi, mes parents sont allés en Allemagne en 90 parce que ça a été... Il y a plusieurs Québécois qui ont fait ça, je pense, puis du monde de partout dans le monde. Ils voulaient aller voir ça, puis ils voulaient aller célébrer avec le peuple allemand parce qu'ils ont été sur le party pendant un bon temps.
Ah oui, ils ont pris
de
la bière beaucoup.
Puis
ah.
Mes parents m'avaient ramené un morceau du mur de Berlin, je l'ai encore dans ma bibliothèque d'ailleurs. Ah. Toi aussi, tu n'as un, puis je pense qu'on est nombreux à Québec puis ailleurs dans le monde.
Ben oui, ma soeur.
Ils vendaient ça, les petits morceaux. Il défaisait le mur, puis le mur s'est éparpillé, puis tout le monde a ça aujourd'hui aux quatre coins de la planète.
Ils en ont vendu, ils en ont donné partout. D'ailleurs, à Montréal, il y a un grand pan de mur de Berlin qui est là-bas. Il y en a dans à peu près tous les musées à travers le monde. Moi, ma petite sœur Brigitte, qui est mariée avec un Allemand, vivait à Berlin en novembre 1989. Et laissez-moi vous dire qu'il s'est bu du schnapps au galon pendant, pendant la semaine qui a suivi. Mais c'était... Une espèce de... Vous savez, c'est comme un bonhomme surprise dans une boîte avec un ressort qu'on a comprimé pendant 27 ans. Le jour où la boîte s'ouvre, les Allemands, évidemment, ils ont redécouvert, notamment ceux de l'Est, une liberté qu'ils n'avaient jamais connue.
C'est ça qui est surprenant, c'est qu'en 24 heures, on avait l'impression que plus jamais ça pouvait revenir un mur comme ça. Puis tout le monde se demandait comment ça se fait que ça a duré aussi longtemps.
Ouais.
Parce que ça a été spontané, puis on savait qu'il n'y aurait plus moyen de réériger ce mur-là. En tout cas, pas à court ou moyen
terme. Pas à Berlin, mais vous savez, Eric, on a commencé à refaire des murs un peu semblables, notamment entre Israël et la Palestine.
Oui.
Il suffit de rappeler que le président américain, M. Trump, souhaiterait avoir un mur de Berlin entre le Mexique et les États-Unis.
Oui, mais ça, c'est, ils prétendent que c'est pour des raisons de sécurité. C'est pas pour empêcher leur population de se sauver.
Mais c'était le rempart contre les hordes latinos, ici, on pourrait-on dire. Hein? Mais les murs, l'histoire nous le montrera, c'est que les murs n'ont jamais réussi à contenir les mouvements dans la durée.
En Corée du Nord, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne dans le sens, ça fonctionne pas.
La zone, elle va marcher encore pendant quelques années. À un moment donné, c'est inévitable. On peut pas empêcher des frères, des cousins de se retrouver. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous savez, 50 ans dans l'histoire d'un peuple, c'est pas très long.
Mais moi, quand je suis allé à Jérusalem, là, le mur, les Israéliens disent que depuis qu'ils ont ça, T'sais, les attentats ont diminué de beaucoup, puis le
Absolument.
Mur a eu un impact positif. Enfin, c'est comme ça qu'ils le vendent.
Exactement. Mais c'est ça, mais c'est pour se libérer des attaques, c'est ça que je disais. C'est pas pour empêcher du monde de s'en aller.
Non, ça
c'est
pas.
C'est pas un rempart pour stopper l'exode d'une population locale.
Encore une circulation locale.
Ah, c'est une...
C'est une barrière de sécurité.
Exactement.
OK, ben Denis, c'est fascinant. Merci beaucoup d'aller partager ta passion pour l'histoire, puis nous rappeler les 30 ans du mur de Berlin. Un événement important, majeur.